Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, avec chaque commandement une paix, cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 25 Azar, 1400 du calendrier iranien, 16 décembre 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. L'Iran prend des mesures volontaires pour résoudre le malentendu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Iran n'accepte aucune obligation au-delà du plan global d'action conjoint, a déclaré Amir Abdullahian à Guterres. L'armée yéménite annonce avoir abattu un drone espion saoudien et un soldat tué lors d'un raid israélien dans le sud de la Syrie. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. La République islamique d'Iran a déclaré qu'elle n'accepterait aucune proposition dans les pourparlers de Vienne au-delà du cadre de l'accord de 2015. Lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, a réitéré le fait que l'Iran n'acceptera aucune obligation au-delà du plan global d'action conjoint sur le nucléaire de 2015 dans les prochaines négociations. S'adressant sur le fait que l'équipe négociatrice iranienne présente dans les pourparlers de Vienne est dotée de pouvoirs nécessaires et qui est en mesure d'étendre son champ d'action en prenant des initiatives et en agissant de façon compétente, sérieuse et responsable, Hossein Amir Abdullahian a ajouté à l'adresse de son interlocuteur, l'équipe négociatrice iranienne à la bonne foi, une détermination sérieuse et la volonté nécessaire pour parvenir à un accord à Vienne. Hossein Amir Abdullahian a considéré le manque d'initiative de la partie occidentale comme l'une des raisons de la lenteur des négociations, tout en notant que la rhétorique de menace n'a jamais fonctionné dans le cas de l'Iran. Il a souligné « Nous avons présenté deux textes sur deux questions, à savoir la levée des sanctions et le nucléaire. Ces textes sont conformes au plan global d'action conjoint et nous n'avons fait aucune demande au-delà de l'accord multilatéral de 2015 et en même temps, nous n'acceptons aucune obligation au-delà de cet accord. » La partie iranienne, dans les négociations, a présenté de bonnes propositions qui peuvent être la base d'un accord durable, a-t-il encore précisé. Hossein Amir Abdullahian a déclaré que l'Iran avait autorisé le remplacement des caméras dans son complexe de centrifugeuse de Karaj, après que l'AIEA y a dénoncé une attaque de sabotage. Il a décrit cette décision comme un geste de bonne volonté de l'Iran. Antonio Guterres a pour sa part exprimé son soutien au processus de Vienne visant à relancer le plan global d'action conjoint. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires internationales, juridiques et parlementaires et porte-parole de l'Organisation nationale de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a déclaré « Après des enquêtes techniques, sécuritaires et juridiques, les caméras de l'Agence internationale de l'énergie atomique pourront être à nouveau installées dans le complexe de Tessa à Karaj. » Selon l'IRNA, le jeudi 16 décembre, Behrouz Kamalvandi a tenu ses déclarations en réponse à des informations contradictoires et à certains articles publiés dans les médias et afin d'éclairer l'opinion publique. Il a aussi expliqué les conditions d'installation des caméras de surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique et se penche à cette occasion sur les récents échanges des deux parties. L'Iran a accepté la réinstallation des caméras de l'agence en guise de geste de bonne volonté. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a accepté que l'AIEA remplace les caméras endommagées sur le site nucléaire de Tessa à Karaj, à l'ouest de Téhéran. Elles avaient été endommagées lors d'une opération de sabotage imputée à Israël en juin et le refus des autorités iraniennes de ces remplacements. L'armée yéménite a déclaré avoir abattu un drone espion du régime saoudien intrus au-dessus de la province de Ma'arib. Les batteries de la défense aérienne ont visé l'appareil espion qui survolait le territoire yéménite. Pendant ce temps, les combats se poursuivaient sur le terrain. L'armée yéménite et les forces populaires ont fait des avancées contre les forces mercenaires à la solde de la coalition d'agression saoudienne. Mercredi, lors d'une attaque en tenaille, ils ont réussi à s'emparer des hauteurs stratégiques proches de Ma'arib. Par ailleurs, dans la province au nord-est de Jaouf, les forces yéménites se sont livrées à de violents combats avec des troupes frontalières saoudiennes et les ont repoussées. Ils ont également pris le contrôle de plusieurs positions dans la chaîne de montagnes stratégique Rashan. Les combats ont fait des victimes des deux côtés. Israël a mené une nouvelle frappe de missile contre les positions syriennes dans le sud du pays, tuant un soldat. Les médias syriens citent une source militaire rapportant que les attaques aériennes ont été lancées depuis le plateau du Golan occupé. Selon la source, les systèmes de défense syriens ont intercepté la plupart des missiles. La défense syrienne a précisé que l'agression a causé la mort d'un soldat et des dégâts matériels. Israël lance systématiquement des frappes aériennes sur la Syrie. Damas a condamné à plusieurs reprises les attaques qui sont une violation de sa souveraineté et a déposé des plaintes auprès de l'Organisation des Nations Unies. Pour Damas, l'attaque israélienne est une violation à la fois de la Charte des Nations Unies et du droit international. Ces attaques sont un acte d'agression terroriste qui faisait partie d'une stratégie visant à encourager l'escalade de la violence au Moyen-Orient et saper les efforts de paix entrepris par la communauté internationale dans la région, a dénoncé Damas. Plus de 24 Palestiniens se retrouvent sans abri alors que le régime israélien les oblige à quitter leur maison dans l'est occupé de la ville sainte de Quds. Une famille de 27 personnes dans le quartier de Silvan a été ciblée cette fois. ils ont été pressés par les responsables du régime sioniste de partir et de démolir leur propre maison. Parmi ceux qui se retrouvent désormais sans abri figurent des enfants et des personnes âgées. Mardi, les forces israéliennes ont rasé au bulldozer les restes d'une maison palestinienne dans le même quartier. Certains Palestiniens, dont les maisons sont sujettes à la démolition, les rasent eux-mêmes pour éviter de nouvelles sanctions et des frais de démolition par le régime israélien. Le régime de Tel Aviv rase régulièrement les maisons et les structures des Palestiniens dans la ville sainte de Rots occupée, sous prétexte qu'ils n'ont pas de permis de construire. Mais les Palestiniens et les groupes de défense des droits de l'homme disent que les mesures visent à s'emparer de plus de terres palestiniennes pour étendre leurs colonies, qui sont toutes illégales en vertu du droit international. Et enfin, le Congrès américain vote le lancement d'une commission chargée d'étudier les échecs de la guerre de 20 ans en Afghanistan, qui s'est terminée par un retrait chaotique des troupes américaines du pays l'été dernier. Le Congrès américain a approuvé mercredi un énorme budget de la défense de 778 milliards de dollars qui prévoit notamment la création d'une commission d'enquête indépendante sur les erreurs commises pendant les 20 ans de guerre en Afghanistan. La République islamique d'Iran a pris une mesure volontaire pour aider à résoudre un cas de malentendu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA. En septembre dernier, l'Iran avait refusé à l'Agence nucléaire des Nations unies l'accès à un certain nombre de caméras endommagées lors d'une opération terroriste visant le complexe de Karaj, un atelier de fabrication de composants de centrifugeuses près de Téhéran. Le refus de la République islamique d'Iran était fondé sur le fait que le pays devait mener à bien certaines enquêtes de sécurité juridique sur l'incident. Mercredi cependant, l'agence iranienne Nour News a rapporté qu'agissant de sa propre initiative, l'Iran avait commencé à autoriser les experts de l'AIEA à changer les appareils endommagés, puisque l'Iran avait achevé la partie principale des enquêtes nécessaires. L'initiative iranienne a également été motivée par la condamnation par l'AIEA de telles opérations de sabotage, a rapporté l'agence Nour News, qui est affiliée au Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne. Le régime israélien, qui a assassiné au moins 7 scientifiques nucléaires iraniens, est considéré comme le principal suspect dans plusieurs opérations de sabotage qui ont visé les installations nucléaires iraniennes au cours de ces dernières années. L'AIEA a également accepté de laisser l'Iran examiner techniquement les nouvelles caméras avant qu'elles ne soient censées être installées. Nour News, quant à lui, a rapporté que l'initiative de l'Iran ne bafouait pas une loi approuvée par le Parlement iranien qui interdit à l'Organisation iranienne de l'énergie atomique de laisser l'AIEA examiner les images enregistrées par les appareils. Mercredi également, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a annoncé l'initiative de l'Iran, affirmant que Téhéran et la IAEA étaient parvenus à un bon accord qui peut éliminer certaines préoccupations concernant le programme iranien d'énergie atomique et ouvrir la porte à une coopération plus poussée avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il a cependant critiqué l'agence pour avoir cherché à recourir à la question technique pour affecter les négociations de Vienne à certaines occasions. Pendant ce temps, la IAEA a également confirmé le rapport. L'accord avec l'Iran sur le remplacement des caméras de surveillance à l'installation de Karaj est un développement important pour les activités de vérification et de surveillance de l'IAEA en Iran, a annoncé l'Agence internationale de l'énergie atomique dans un communiqué, ajoutant que les nouvelles caméras seraient installées dans les prochains jours. L'Iran est le groupe des pays 4 plus 1 qui comprend la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine, ainsi que l'Allemagne, ont tenu plusieurs séries de pourparlers dans la capitale autrichienne, Vienne. Les pourparlers visent à examiner la possibilité de lever les sanctions que les États-Unis ont réimposées à l'Iran en 2018 après avoir quitté unilatéralement l'accord nucléaire signé en 2015.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur cette visite effectuée par le Premier ministre israélien aux Émirats arabes unis. Et cette visite est intervenue à un moment où les Émirats arabes unis ont tenté ces derniers temps de se rapprocher davantage de l'Iran. Il y a eu surtout en fait la visite d'un haut responsable émirati à Téhéran où il a rencontré les autorités iraniennes. Et cette visite intervient à un moment où il y a désormais des frictions dans les relations entre les États-Unis et les Émirats arabes unis au sujet surtout de la vente des avions F-35 par les États-Unis aux Émirats arabes unis. Les États-Unis refusent toujours de vendre ce type d'avion aux Émiratis. Et cette visite intervient toujours à un moment où ces accords d'Abraham, dont l'objectif c'était d'aller vers la normalisation avec le régime israélien, sont désormais un constat d'échec. La politique israélienne dans la région, c'est un constat d'échec. La politique anti-syrienne, c'est désormais un constat d'échec. La politique anti-yéménite, c'est désormais un constat d'échec. Et la politique anti-iranienne également, c'est désormais un constat d'échec. Comment peut-on expliquer cette visite aux Émirats arabes unis du Premier ministre israélien Naftali Bennett? On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Paris ou Damas une analyste franco-syrienne, Madame Aïssa Midani. Madame Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et ravi d'être avec vous, en fait, et merci à toute l'équipe et tous vos auditeurs.
Merci, Madame Midani. Vous êtes à Damas ou bien vous êtes actuellement à Paris?
Je suis à Paris. Je suis
très
à Paris actuellement.
Madame Midani est avec moi pour cette émission depuis Paris. J'ai également en ligne avec moi Madame Midani, un analyste politique et spécialiste français des questions internationales. Il s'agit de Monsieur Pierre Dortiguier, qui est avec moi en ligne pour cette émission depuis Toulouse. Monsieur Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir. Bonjour, monsieur Laurostine. Bonjour à vos auditeurs. Et bonjour, madame Isani, que j'ai le plaisir de voir, justement, devant moi.
Bonjour, monsieur.
Monsieur Dortiguier, on va commencer avec vous, avec la permission de madame Midani de notre émission d'aujourd'hui. Première question, quelle évaluation portez-vous sur cette visite aux Émirats arabes unis du premier ministre israélien, s'il vous plaît?
Eh bien, il s'agit en réalité d'une, d'une stratégie que le Premier ministre israélien veut indiquer aux États arabes, aux Émiratis, plutôt, aux Émiratis. Et je crois qu'il faut le prendre là, non pas comme la démarche d'un solliciteur, mais la démarche bien d'un organisateur. Vous savez, vous l'avez bien dit, les Israéliens, donc avec les accords d'Abraham, ont développé jusqu'en Afrique du Nord, jusqu'au Maroc, comme on le sait, une stratégie très vaste. Et je pense que compte tenu de certaines difficultés, il faut bien l'admettre, aujourd'hui avec l'administration américaine, je dis une certaine difficulté, car les États-Unis, ont un certain degré de réalisme et ne veulent pas, s'engager, à mon avis, entièrement aux côtés des Israéliens. Je crois que ceux-ci veulent semer la division entre les pays arabes, voyez-vous, et jouer sur la fragilité des régimes. C'est-à-dire que les difficultés que peuvent rencontrer les États arabes, j'entends les États émiratis, sont pour les Israéliens une occasion justement d'apparaître comme un tuteur nécessaire. Je dois souligner qu'il y a un fait qui nous a beaucoup frappé, c'est la corrélation entre ces initiatives israéliennes et par exemple les ventes d'armes très importantes que nous-mêmes en France avons consenties justement à ces États, et ce qui nous permet d'envisager bien sûr les possibilités d'un conflit. C'est à mon avis un conflit, un engagement plus grand, je dirais même des États européens, dans la guerre au Yémen par exemple, et même de façon plus générale dans une sorte d'encerclement de l'Iran par exemple, nous semble être à l'ordre du jour, et ce qui bien sûr peut expliquer aussi les sortes de difficultés, rencontrées pour le renégocier, renégocier les accords de Vienne de 2015. Et je crois que nous devons tenir compte, quels que soient les échecs des Israéliens, par exemple, échecs tout à fait constants vis-à-vis des Palestiniens et autres, ça, bien sûr, ils auront toujours une plaie dans leur flanc, depuis le début, c'est même depuis avant même la création de l'entité sioniste. Mais je crois qu'il faut bien mesurer, le danger de cet enveloppement de politique israélienne aujourd'hui qui passe à l'offensive. Je crois qu'on a raison, comme toujours, avec une sorte de demi-vérité, ce qu'on peut appeler une sorte de mensonge léger, à peine transparent. On a envisagé la chute de M. Netanyahou comme étant, la chute d'un gouvernement réactionnaire et autres. En réalité, nous avons affaire maintenant à une politique offensive beaucoup plus dangereuse que celle de l'époque du Likoud. C'est une entreprise, qui est continue. Les Israéliens ne peuvent agir que par la brutalité et la ruse. Et je crois qu'ils utilisent les deux. Et il faut bien sûr, tenir compte de cette nature et montrer, ce serait le rôle de la diplomatie, de démontrer aux Européens, par exemple, qu'ils n'ont aucun intérêt à se mettre à leur suite.
Madame Midani, M. Dortiguier estime que il faut mesurer le degré du danger. Le régime israélien, on a affaire en ce qui concerne le régime israélien avec une offensive. Une politique beaucoup plus offensive de la part du régime israélien. Le régime israélien qui utilise la ruse et la brutalité dans l'état actuel des choses. Le régime israélien à y recours à ces deux éléments dans sa politique étrangère. C'est pourquoi il faut mesurer le danger que représente le régime israélien pour la région, le régime israélien qui mine toujours, selon M. Dortiguier, qui tente toujours de miner les relations des pays de la région. Votre analyse, s'il vous plaît.
Effectivement, les Israéliens, je pense que ce régime de l'entité sioniste ne peut rester d'ailleurs, ne peut vivre qu'à travers la brutalité et le mensonge, je dirais, au-delà de la ruse et les mensonges et les menaces qu'il fait autour de lui. Donc ça, c'est un premier point important. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, toute cette activité effrénée, en fait, de rendre visite à tous les pays, elle est liée à deux choses. D'abord, elle est liée à l'accord sur le nucléaire iranien qui se profile comme étant gagnant à l'horizon, donc parce que les États-Unis veulent absolument y revenir, ça d'un côté. Et de l'autre côté, c'est aussi sa peur il y a aussi la montée des forces de l'axe de la résistance, en fait, et aussi la montée de la résistance au sein de la Palestine occupée à tous les niveaux, donc depuis les territoires occupés en 48 et quelle que soit la date d'occupation. Aujourd'hui, il y a pratiquement une insurrection généralisée en Palestine contre l'occupant israélien. Ce qui fait que d'ailleurs l'occupant israélien est aussi en train d'accentuer sa brutalité et sa répression. Il y a même aujourd'hui tous les jours des jeunes palestiniens qui sont tués à bout portant. Sous n'importe quel prétexte, il y a tous les jours des personnes qui sont arrêtées aussi, même quand ils ont été libérés, ils sont arrêtés et mis en taule. On a l'impression que cet état d'occupation, il est en perte de vitesse et il, comme une bête blessée, il mord là où il tourne, en fait. Donc là, c'est un premier point. Le deuxième point aussi, c'est que Trump, avant son départ, il a voulu accélérer l'enracinement, entre guillemets, hein, beaucoup de guillemets, de cet État fantoche dans la région. Donc il a obligé les Émirats, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, etc., à sceller des relations, et dernièrement le Maroc aussi, à sceller des relations diplomatiques avec ce pays, avec cette entité, et il a poussé vers les échanges culturels, etc., et à tous les niveaux. Bon, ça n'empêche en même temps, ça ne fait rien du tout. On a vu au Maroc l'ampleur des manifestations de la population contre ces accords. On a vu à quel point aussi à Bahreïn, comment les réactions se font. Dans tous les pays arabes, les réactions contre ces accords, entre guillemets, hein, comment elles sont dénoncées et refusées par les peuples. Cette visite, elle va dans le sens d'essayer, justement, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans votre excellente introduction, c'est venu juste après la visite des Émirats Arabes Unis du prince, en fait, en Iran, et puis la confirmation d'excellents rapports entre l'Iran et les Émirats Arabes Unis. Donc là, c'est aussi une volonté de jouer sur ces relations-là et puis faire barrage, je dirais, à des ententes beaucoup plus profondes avec l'Iran. Et ça, ce serait effectivement quelque chose auquel aspirent les peuples des deux côtés de la rive du Golfe. Et d'un autre côté, et par contre, les les gouvernements sont, qui étaient jusqu'à présent au diktat américain, ont été en plus inquiétés par la manière dont les Américains se sont retirés de l'Afghanistan. Donc ça donne des inquiétudes. Et donc eux, ils vont chercher aussi des relations dans les pays de la région, qui sont les pays authentiques de la région, donc l'Iran, la Syrie, l'Irak, donc tous les pays aujourd'hui de l'axe de la résistance. Donc ça les inquiète beaucoup, les Israéliens. Donc en fait, moi j'y vois effectivement une frise dont ils cherchent à avoir des appuis dans une situation où ils sont vraiment aux abois de tous les côtés et en politique d'échec, effectivement, de tous les côtés.
Monsieur Dortiguier, vous aussi, vous venez de différentes allusions tout à l'heure, en quelque sorte, à ce qui se passe à Vienne, en ce qui concerne en fait ces négociations sur la levée des sanctions contre l'Iran. Madame Midani également estime qu'il faut interpréter ces agissements désespérés du côté d'Israël, si vous voulez, dans le cadre de ces négociations à Vienne, également dans le cadre de la montée en puissance de l'axe de la résistance. Ces négociations, c'est de, en fait, tentative américaine de vouloir, si vous voulez, revenir à cet accord nucléaire et cette montée de la puissance de l'axe de la résistance depuis l'Iran vers l'Irak en passant par Damas, Sanaa et Beyrouth, inquiète de beaucoup les Israéliens. Pensez-vous que les Israéliens vont réussir dans leur agissement, si vous voulez, désespéré cette fois-ci, M. Dortiguier?
Oui, en effet, cette inquiétude est manifeste. Et ils ne peuvent réussir, à notre sens, et je suis désolé de le dire comme Européen, que si ils ont une autre carte en main. Et je crois que cette carte qui est possible pour les Israéliens, je parle bien sûr des événements politiques à venir, je ne parle pas de la fin des choses. Évidemment, à la fin, Israël sera obligé de capituler, bien sûr, devant ses adversaires. Mais je pense que l'alliance que cherchent les Israéliens est avec l'Europe, beaucoup. J'ai remarqué que la sévérité de la porte-parole du gouvernement britannique touchant les négociations de Vienne, un ton très effronté, voyez-vous, contre l'Iran, est très dur. Et j'estime que notre pays également, dans la mesure où il a du poids, bien sûr, est également dirigé dans ce sens-là. Je crois que la politique israélienne va, s'appuyer ou exciter, tout dépend comment on peut présenter la chose, des États européens contre l'Iran. Je crois que, parce qu'il y a bien sûr un certain, je le dis, réalisme américain, qui s'est manifesté justement par le départ d'Afghanistan. Et je crois que je ne dis pas que les Américains veulent se replier sur eux-mêmes, mais disons, ils ont senti qu'il faut une autre politique, disons, et un autre type de relation avec les grandes puissances que sont la Chine et la Russie. Et donc là, il y a bien sûr des intérêts américains très forts, et je ne dis pas que les Israéliens soient exclus, loin de là, mais ils peuvent chercher, disons, une autre carte à jouer. Et je crois que c'est la suite de ces négociations de Vienne qui nous démontrera. Nous avons été nous-mêmes très frappés par cette vente d'armes, bien sûr, de notre pays aux Émirats. Vous savez, ces ventes d'avions, nous estimons quand même que ce n'est pas simplement une affaire purement commerciale, qu'il y a aussi un intérêt stratégique. Il y a une volonté, vous savez, dans notre pays de soutenir la Grèce, par exemple, contre la Turquie. Enfin, tout ceci, et ce ne sont pas des choses étrangères à ce dont nous discutons. Ça fait partie d'un plan global. voyez-vous, et les Israéliens jouent. Les Israéliens ne sont pas attachés à un camp donné. Ils jouent à travers plusieurs camps, voyez-vous, que ce soit à l'est même ou à l'ouest. Alors, bien sûr, ils se sont rattachés, ils ont, avec l'administration de Trump, comme disait Mme Misani, ils ont obtenu, bien sûr, des bénéfices à l'intérieur des pays arabes, mais il semble, et c'est une surprise, disons, une surprise qui s'explique très bien par la nature de l'économie américaine aujourd'hui, ils ont trouvé une certaine résistance, à mon avis, ou une certaine opposition, si vous voulez, opposition matérielle, bien sûr, dans la nouvelle administration Trump, que pourtant, à l'intérieur de laquelle pourtant ils ont leurs hommes, voyez-vous. Mais l'intérêt américain l'a emporté sur ces sortes d'intrigues, voyez-vous. Et je crois qu'il y a là, dans la part des Israéliens, un jeu dangereux, bien sûr. Ils ont leur faiblesse, car ils ont contre eux, évidemment, l'axe de la résistance qui grandit. Mais ils peuvent, disons, par une excitation, par une tromperie, en mettant en évidence de ce qu'ils appellent des actes terroristes, en attaquant le Hezbollah, en attaquant le Hamas. Voyez-vous, ils sont capables de tout. Ils se sont eux-mêmes des comploteurs perpétuels, voyez-vous. Ce n'est pas du tout une injure de dire ça, c'est une description historique, voyez-vous. Et ils n'ont aucun attachement envers leur propre, entre guillemets, allié, aucunement. C'est une sorte de force égoïste, voyez-vous, qui vit d'autrui, qui vit des autres, voyez-vous, mais sans aucune considération d'autrui. Mmh. C'est pour ça que c'est un régime dangereux.
Madame Midani, M. Dortillier, estime que voilà, le régime israélien, c'est un régime dangereux parce qu'il s'agit d'un régime qui n'a pas qui cherche ici les autres pays en fonction de ses propres intérêts. Madame Midani, une dernière question. Des pays comme les Émirats Arabes Unis, peuvent-ils vraiment s'appuyer sur Israël, Madame Midani?
Certainement pas, parce que de toute façon, leur impression, c'était pour se faire protéger par Israël dans le cas où ils sont lâchés par les États-Unis, mais en réalité, ils ont très vite découvert que non, donc c'est la raison pour laquelle ils vont chercher des contacts et des alliances nouvelles auprès de l'Iran, auprès de la Syrie, parce que eux qui ont quand même animé et financer les terroristes en Syrie, en Irak et au Yémen, ils ont même participé. Là, ils sont en train de revenir sur cette politique et elle est dans le sens aussi plutôt d'une certaine communauté au niveau des pays arabes, avec l'Iran aussi. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je pense que c'est un pays dangereux aussi parce que de toute façon, c'est un pays qui n'a pas d'assises dans la région. Ils n'ont pas de racines. C'est un pays qui a, c'est un État qui a toujours voulu, qui a volé la terre d'autrui et qui est basé sur l'exil forcé, sur l'exode des populations, sur les massacres, sur les tueries, sur le fait. Mais aujourd'hui, en fait, ça se retourne contre eux parce qu'aujourd'hui le mouvement migration vers les pays d'origine des colons a commencé et d'après beaucoup de rapports c'est même un mouvement qui s'intensifie parce que les Israéliens ont perdu confiance dans leur État, dans leur armée et donc de toute façon c'est un pays qui va se vider de lui-même par ce mouvement.
Merci infiniment, Madame Aïssa Midani, analyste franco-syrienne, d'avoir été avec moi par Skype depuis Paris pour cette émission. Mes vifs remerciements vont également à Pierre. Je vous en prie. Mes vifs remerciements vont également à Pierre Dortillier, philosophe français spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
L'idéologie et la pratique des courants takfiristes. Nous avons le sentiment ici que la menace est moindre qu'en 2015, car il y a moins d'attentats. Mais ce qu'on appelle souvent le djihad mondial n'a jamais été aussi actif. Il y a plus de terroristes extrémistes sur tous les continents et ils progressent en Asie centrale, en Ouganda ou encore au Mozambique, a déclaré l'analyste française Anne-Clémentine Larocque. Inquiétant et lucide, le constat a été dressé lundi dernier par Anne-Clémentine Larocque, analyste spécialisée au ministère français de la Justice, lors d'un colloque organisé à l'Assemblée nationale par le think tank européen Leadership Network, et cela en partenariat avec l'Institut Montaigne et la Fondation pour l'innovation politique. Après des responsables ou anciens responsables politiques, des experts dont l'ancien patron du renseignement militaire, le général Christophe Gomard, ont livré leurs réflexions sur le thème du 11 septembre 2001 au retrait d'Afghanistan vers une reconfiguration du terrorisme takfiriste. Anne-Clémentine Larocque, qui travaille avec les magistrats antiterroristes français, a aussi rappelé que de nombreux terroristes extrémistes, comme le franco-sénégalais Omar Diaby, toujours présent à Idlib, dans le nord de la Syrie, ont salué la victoire des frères moudjahidines afghans. Plutôt que de parler d'un d'après-Daesh, elle évoque un nouveau Daesh avec une réorganisation de la mouvance takfiriste entre redéploiement de Daesh et appel d'Al-Qaïda à frapper l'Occident. Ancien expert des Nations Unies et directeur du Counter Extremisme Project, Hans-Jacob Schindler souligne la capacité de projection de Daesh au Khorasan, Daesh-Ka, branche afghane de l'organisation Daesh. Et ce, avant même la prise de Kaboul avec le démantèlement en Allemagne en avril 2020 d'une cellule tragique au contact avec des membres de Daesh-Ka. Expert du Souffrance Center, Colin Clark insiste sur la redistribution de ressources de Daesh vers ses affiliés. Sur l'Afghanistan, il note que le renseignement américain s'inquiète d'une capacité de frappe extérieure dès l'été 2022 si les choses se dégradent sur place. Pour lui, le pays demeurera un pays exportateur de terrorisme takfiriste, d'abord pour les pays voisins, puis à l'extérieur de la zone. Deux professionnels français à la parole rare se sont aussi exprimés lundi. Coordinateur du pôle antiterroriste du tribunal de Paris, le juge d'instruction David Depas, qui insiste sur la nécessité de faire face à la terreur sans renier ses valeurs, évoque une séquence infernale depuis 2015 dont les derniers stigmates ont été observés il y a à peine 8 mois avec l'attentat de Rambouillet. S'il souligne la montée en puissance de l'ultra-droite, le magistrat note que 90% des procédures, plus de 400, concernent le terrorisme takfiriste. Avec la difficulté de l'anticipation d'une menace de plus en plus inspirée, des terroristes agissant au nom d'une idéologie mortifère, sans lien avec une organisation. L'évaluation de la dangerosité des individus, estime-t-il, est aussi un défi lancé à la justice française. Conseiller spécial à l'Institut Montaigne, Patrick Calvard, directeur central du renseignement intérieur, puis directeur général de la sécurité intérieure de 2012 à 2017, souligne pour sa part les 4 défis du renseignement dans la lutte contre le terrorisme. La révolution numérique est notamment l'obstacle du chiffrement. La masse d'informations reçues par les services, le contrôle aux frontières, avec notamment l'absence de la biométrie, enfin la coopération internationale, quasi exclusivement fondée aujourd'hui sur l'échange de données, mais bloquée par les législations européennes, et de conclure qu'il appartient aux citoyens et aux responsables politiques de déterminer un équilibre sécurité-liberté acceptable à leurs yeux. Des vidéos de propagande analysées par le journal Le Monde exposent les méthodes des groupes takfiristes au Sahel pour affronter les armées locales et s'emparer de leur matériel. Elle souligne aussi comment certaines branches terroristes se déchirent. 1 heure et demie, c'est le temps qu'il a fallu aux terroristes de l'État islamique du Grand Sahara pour s'emparer de la base nigérienne d'Inat, près de la frontière malienne, le 10 décembre 2019. Une attaque rapide et violente qui a fait plus de 70 morts dans l'armée nigérienne. De cette attaque, comme de la plupart des coups de force takfiristes au Sahel, il n'existe que des images tournées et diffusées par les terroristes eux-mêmes, affiliés à Al-Qaïda et à Daesh. Des vidéos de propagande à la gloire des terroristes qui, une fois analysées par Le Monde et croisées avec d'autres images et des données satellites, fournissent toutefois des informations précieuses sur les méthodes, les armes, mais aussi les limites de ces combattants. Véhicules piégés inspirés de Daesh en Irak, tenue copiée sur celle des casques blancs des Nations Unies, distribution de tracts en langue locale, ces groupes multiplient les techniques pour maintenir ou étendre leur zone d'influence, qu'ils se disputent aussi entre eux. Une position de l'armée béninoise a été visée par des terroristes extrémistes dans l'extrême nord du pays dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 décembre. 2 militaires ont été tués. L'armée béninoise, en alerte, tente de rassurer la population. C'est via un communiqué le jeudi 2 décembre, dans la soirée, à la télévision nationale, par son porte-parole, que l'état-major des forces armées béninoises a confirmé l'attaque de Porga, localité située à la frontière avec le Burkina Faso, dans le nord-ouest du pays, à une journée de route de Cotonou, la capitale économique. Le traumatisme des enlèvements de 2019. Des individus ont ouvert le feu sur un poste de surveillance de l'armée. Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux militaires ont été tués, d'autres sont blessés et actuellement soignés. Un assaillant est mort. La veille, plus à l'est, vers Panikora, toujours dans cette zone frontalière, une patrouille avait déjà été prise pour cible, nuitamment, et un terroriste avait été abattu. Des traces de sang ont été aperçues, laissant penser que d'autres blessés ou morts ont été traînés dans le sens du repli vers un pays voisin où sévissent les groupes terroristes, indique le communiqué. Les forces armées béninoises se veulent rassurantes. Tout est mis en œuvre pour assurer la défense du territoire national contre toute forme d'agression, d'où qu'elle vienne, ainsi que la sécurité des biens et des personnes. Chaque citoyen est invité à vaquer à ses occupations.
Thank you.